Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. La réforme des retraites en boomerang dans la campagne du second tour. Emmanuel Macron promet de l'atténuer et soigne sa gauche où se trouvent les réserves de voix. De nouvelles mesures, plus sociales sans doute annoncées dans les prochains jours. Tandis que pour convaincre, Marine Le Pen s'attaque à la crise démocratique, vante référendum citoyen proportionnel et septennat unique. Dans l'actualité encore, des violences sexuelles à Polytechnique révélées par une enquête interne. Des tirs dans le métro de New York, le suspect toujours recherché. Et puis le tennis, il y a encore du chemin à faire d'ici Roland-Garros pour le Serbe Novak Djokovic, éliminé dès le premier tour aujourd'hui du tournoi de Monte-Carlo. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, on est heureux de vous changer les idées ce soir. C'est avec Thomas Pesquet que vous allez dialoguer. On lui demandera s'il veut remonter là-haut au plus vite pour retrouver la douceur de l'apesanteur, ce qu'il fait de sa vie aussi en ce moment. À vos questions, il y a déjà du monde au standard et c'est tant mieux, au 01 45 24 7000.
France Inter. L'entre-deux tours penche donc à gauche, quitte à faire bouger les totems. Emmanuel Macron sur les retraites se dit prêt à revoir la borne d'âge, 65 ans prêt à recourir aussi au référendum. Manœuvre électorale, réplique Marine Le Pen, que cette concession faite hier au premier jour de la campagne de second tour. Mais le président sortant assume, dit-il, d'écouter. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Emmanuel Macron est à Strasbourg ce soir, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête dimanche, 35% des voix, et c'est à ses électeurs qu'il s'adresse.
Il prend le temps, tant pis pour le déjeuner et le planning, le long des barrières, des électeurs insoumis hésitent à voter pour lui. À Mulhouse, un jeune l'interpelle, prenant le revenu d'autonomie.
Inspirez-vous de M. Mélenchon qui a institué cette mesure de 1062 euros.
Alors, moi,
inspirez-vous de ça.
Moi, je voudrais m'inspirer de ça avec chacun, on a son identité, hein. Je pense à tout le monde et je veux laisser personne au bord de la route.
S'inspirer, écouter, c'est la semaine de l'empathie absolue, assumée. Son équipe, il faut qu'il démontre son envie, son énergie et les clashs sont les bienvenus.
Jamais vu un président de la 5ème République aussi nul que vous.
Eh ben merci. Je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui. Moi je suis prêt à débattre, vous le voyez.
Mais si vous avez des idées toutes faites et que vous ne voulez pas débattre, on ne peut pas y arriver.
De quoi vous voulez débattre?
Une première concession hier sur les retraites, la promesse de voir la solidarité à la source adoptée avant janvier. Sans doute un geste à venir pour l'écologie, peut-être un engagement clair sur la fin de vie. Ses amis rivalisent d'idées.
J'écoute et je pense qu'il faut aussi faut de l'humanité, faut de l'empathie, faut pouvoir avancer, faut le faire tous ensemble. Parce que de la même manière, je serais irresponsable si je vous disais ce que j'ai proposé ne vaut plus après le premier tour, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord.
Attention au rétropédalage, aux marches arrière dangereuses. Samedi, à Marseille, le candidat devrait présenter la synthèse des amendements retenus au fil de ses déplacements.
Maxence Lambrecq en direct de Strasbourg avec Geoffrey Maria à nos côtés d'Emmanuel Macron au contact des électeurs. De nouvelles mesures sur l'écologie, le travail, le pouvoir d'achat et une réforme des retraites à négocier. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
Comment les syndicats se positionnent-ils dans ce contexte?
Eh bien, sur la réforme des retraites, pour commencer, scepticisme du côté de la CGT. Céline Verzelletti est l'une des secrétaires confédérales.
Là, il nous explique que peut-être, oui, il a bien compris qu'elle était impopulaire, mais il faut pas qu'il nous refasse le coup du dernier quinquennat, dire qu'il est à l'écoute des salariés, de la population, et puis en fait, il a voulu tout nous imposer lors du dernier quinquennat, et heureusement qu'il y a eu des mobilisations.
La CGT qui ne donne pas de consigne de vote, mais veut sonner l'alerte avec un message intitulé « Pas une voix à l'extrême droite ».
Notamment sur la question de l'imposture sociale, puisque si on écoute Marine Le Pen, on a l'impression qu'elle serait finalement, elle œuvrerait dans l'intérêt des plus pauvres. Alors que c'est bien l'inverse, on sait très bien qu'elle protégera les riches et qu'en plus elle divisera donc les salariés.
Dire pour qui voter serait d'ailleurs exonérer les politiques de leurs responsabilités, martèle Yves Verrier pour Force Ouvrière.
Il y a des problématiques de pouvoir d'achat aujourd'hui, d'inégalité, qui provoquent des votes de colère, de mécontentement. On ne peut pas demander à d'autres associations, syndicats, de combler le déficit de réponse.
Autre positionnement, la CFDT appelle, elle, à battre Marine Le Pen en votant. Macron appelle qui, je cite, ne vaut ni approbation ni adhésion. Quant à l'UNSA, léger glissement par rapport à 2017, Emmanuel Macron n'est pas cité, mais le syndicat appelle à ne voter ni Le Pen, ni Blanc, ni nul ni abstention. La nuance est subtile.
Tour d'horizon signé Claire Chaudière. Et quand d'anciennes figures politiques s'en mêlent, Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre, votera Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy, qui donnera lui aussi sa voix au président sortant et qui appelle à un rassemblement plus large. Il n'en fallait pas plus pour diviser encore sa famille politique. Elle qui péniblement accouchait hier d'une position commune, pas de vote Le Pen, qui refuse aujourd'hui officiellement toute alliance avec En Marche. Bonsoir Anne Souhaitemont.
Bonsoir Hélène.
Certains commencent tout de même à réfléchir avec un œil sur la carte électorale.
Oui Hélène, si tous à droite condamnent l'absence de soutien de Nicolas Sarkozy à Valérie Pécresse, une partie des élus, une trentaine de députés LR sur une centaine, est aujourd'hui d'accord avec lui. Pour survivre, la droite devrait travailler avec Emmanuel Macron. Il dit tout haut ce que certains pensent tout bas, décrypte un candidat aux législatives. Alors, négociation pour ne pas avoir de candidat En Marche en face aux législatives ou coalition gouvernementale, c'est trop tôt, explique un poids lourd LR. La victoire de Macron n'est pas acquise, mais oui, ça discute dans tous les sens. Le téléphone sonne souvent, confirme un membre du parti d'Édouard Philippe Horizon, qui pourrait servir de sas à certains LR. Portrait robot des élus qui s'interrogent, ceux des territoires où Emmanuel Macron est arrivé largement en tête et Valérie Pécresse a battu des records à la baisse. Alors tous ont la question du timing en tête jusqu'au second tour et on l'a vu à l'instant, Emmanuel Macron va parler à la gauche, pas à nous, pas au LR. Et puis sommes-nous en mesure de négocier quand on a fait moins de 5%, s'interroge un ténor de la droite. Réponse d'un ministre, non, les LR ne sont pas en position de force.
Voici qui illustre la question de la composition au lendemain de l'élection et sur la question de comment gouverner. Marine Le Pen détaillait ses propositions aujourd'hui pour lutter contre la crise démocratique. Le recours au référendum plus régulier, la proportionnelle et le septennat non renouvelable parmi ses propositions phares.
Je vais revivifier nos institutions et notre fonctionnement démocratique. Tout d'abord, par le référendum d'initiative citoyenne. Les Français, sondage après sondage, plébiscitent l'extension des possibilités de recours au référendum et leur usage plus fréquent. Cela correspond parfaitement à ma propre opinion, maintes fois exprimée. Je crois vraiment que le référendum constitue un puissant outil de pacification du débat politique et contribue au développement d'une culture démocratique. On ne se laisse pas aller dans une révolte violente ou désespérée contre une réforme, comme on a pu en voir sous le mandat d'Emmanuel Macron, quand on sait que l'on pourra s'en saisir en rassemblant les signatures nécessaires pour organiser en quelques mois un vote du peuple.
La candidate d'extrême droite Rassemblement National avec Élodie Forêt, Marine Le Pen, qui elle aussi a pour objectif d'élargir son électorat avant le second tour, de lisser son image. Ni Éric Zemmour, ni Marion Maréchal ne feront partie de son gouvernement, a-t-elle tenu à faire savoir aujourd'hui. L'ex-polémiste d'extrême droite qui a recueilli 7% des voix dimanche dernier et qui est aujourd'hui visée par une enquête pénale. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Enquête ouverte à la suite d'une plainte contre X, déposée par l'Union des étudiants juifs de France, et J'accuse, deux associations qui soupçonnent l'équipe d'Éric Zemmour d'avoir organisé un démarchage par SMS ciblé sur des Français de confession juive deux jours avant le premier tour.
Oui, en envoyant un texto dans lequel on pouvait lire « Bonjour, j'ai écrit un texte pour vous. Pourrons-nous vivre encore longtemps en paix en France? Vos enfants comptent sur vous. » Le tout assorti d'un lien vers le site du candidat, un lien désactivé depuis. Stéphane Liltier, l'avocat des associations qui ont porté plainte.
Selon les informations qu'on a d'ores et déjà pu collecter, Éric Zemmour aurait réuni dans une base de données, on ne sait comment, plus de 10 000 noms associés à des numéros de téléphone de personnes juives ou réputées juives pour leur adresser un texte intitulé « Message d'Éric Zemmour aux Français de confession juive ». On voit bien quel est le critère de sélection des destinataires. Et là, c'est sans précédent. Sous la Ve République, c'est une très lourde menace qui vient de se réaliser pour les libertés publiques en France.
L'entourage d'Éric Zemmour explique lui avoir eu recours à un fichier rassemblant le nom de personnes qui se sont inscrites sur des sites consacrés à l'antisémitisme sans que leur religion soit spécifiée. Des internautes, assure-t-on chez le candidat, qui ont donné leur accord à l'utilisation de leurs données à des fins commerciales ou politiques. L'enquête va maintenant viser à déterminer les circonstances précises dans lesquelles ont été ciblés les destinataires de ce texto. L'utilisation illégale de données est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, ça c'est pour l'aspect pénale et l'enquête préliminaire qui vient d'être ouverte. Mais la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a également ouvert sa propre enquête sur cet envoi de SMS.
Ariane Grissel, les derniers échos de cette campagne d'entre-deux tours aujourd'hui. Cette tribune de sportifs de tous horizons rendue publique à l'instant sur le site de France Info et sur le site du Parisien.fr. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud.
Bonsoir Hélène.
Des sportifs qui prennent position.
Oui, défendre les valeurs sportives, c'est refuser l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Dès le titre de la tribune, le ton est donné. Une vingtaine de sportifs français de haut niveau co-signent ce texte. On y retrouve Tony Parker, Yannick Noah ou encore des champions olympiques comme Marie-Josée Pérec, Clarisse Agbenienou. L'olympisme, justement, est au cœur de cette tribune qui parle de ce 26 juillet 2024. Ce sera le jour de l'ouverture des JO de Paris. Ce jour-là, dit la tribune, celui ou celle qui sera élu le 24 avril incarnera le pays aux yeux du monde. Nous, sportifs, sportifs français de tous horizons, ne pouvons imaginer que ce moment historique revienne à une présidence d'extrême droite. Marine Le Pen n'est pas citée, mais elle apparaît donc en filigrane. Le texte se poursuit en ces termes. Le sport auquel nous croyons, celui des valeurs de l'olympisme, excellence, amitié, respect, mixité, refuse toutes les discriminations. La fin est carrément une consigne de vote. C'est parce que nous croyons en ces principes que nous appelons à faire barrage à l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron le 24 avril.
Et tribune à lire, je le disais, sur le site de nos confrères de France Info.
Et à 19h11, Hélène s'étire dans le métro new-yorkais aux États-Unis.
Au moins 16 personnes ont été blessées, des engins explosifs ont été retrouvés, un important dispositif de sécurité mis en place dans le quartier de Brooklyn où ça s'est passé en début d'après-midi chez nous, début de matinée aux États-Unis. On a encore du mal à savoir ce qui s'est vraiment passé. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes sur place et la police est à la recherche du tireur.
Oui, absolument. Et vous entendez peut-être les hélicoptères au-dessus de ma tête. Ce quartier de Sunset Park a été bouclé sur une dizaine de rues. Plusieurs lignes de métro ont été coupées à Brooklyn. On sait aussi que les écoles du coin ont eu pour consigne de garder les enfants à l'intérieur. C'est à 8h24 ce matin, en pleine heure de pointe, qu'un homme en veste de chantier avec un masque à gaz a déclenché une lacrymogène dans une rame de métro qui entrait en gare. Il a ensuite ouvert le feu sur la foule présente dans et à l'extérieur du train sur le quai. Bilan, 16 blessés au moins, dont 10 par balle, mais aucune victime. Le suspect, vous le disiez, est en fuite. La gouverneure de l'État appelle les New-Yorkais à la vigilance. Un homme armé, dangereux, dit-elle, est dans la nature. En revanche, la police a confirmé qu'aucun explosif n'avait été retrouvé, comme les pompiers l'avaient annoncé dans un premier temps. Les faits ne font pas l'objet d'une enquête pour acte terroriste. Pas pour l'instant, en tout cas, affirment les autorités.
Merci beaucoup pour ces toutes dernières précisions, Loïc Loury, en direct de New York. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la guerre en Ukraine, 48e jour. Marioupol, toujours menacée de tomber. Le maire évalue à plus de 20 000 le nombre de civils tués en 40 jours de combat. Et pendant ce temps, en Russie, Vladimir Poutine célèbre le jour des cosmonautes, le 12 avril de chaque année, depuis le premier vol spatial de Yuri Gagarin en 1961. Sylvain Tronchet est à Moscou.
Vladimir Poutine voulait certainement offrir à sa population l'image d'un pays que rien n'ébranle ou rien ne change. Le voici donc en ce jour des cosmonautes, une fête que de nombreux Russes adorent, qui sent bon l'URSS triomphante, déambulant dans le cosmodrome Vostochny et racontant à la télévision ses souvenirs de Yuri Gagarin.
J'étais un enfant, j'avais 9 ans. Franchement, je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Mais j'ai vu que quelque chose de grand, d'extraordinaire s'était produit. C'était vraiment comme le jour de la victoire.
Et pour l'accompagner, le maître du Kremlin avait choisi son meilleur allié, le président biélorusse Alexander Loukachenko, lui aussi d'humeur badine et prêt à plaisanter de la situation internationale.
Je me suis surpris à penser, on ne sent pas de sanctions ici. Tu te promènes et tu ne le sens pas.
Dans cette ambiance surréaliste, les deux hommes ont parlé coopération spatiale, mais aussi quand même de la guerre en Ukraine, qui risque de durer si l'on en croit Vladimir Poutine.
J'entends souvent la question, est-il possible d'aller plus vite? C'est possible, ça dépend de l'intensité des combats. Mais l'intensité des combats est malheureusement liée aux pertes, d'une manière ou d'une autre. Notre tâche est d'atteindre tous nos objectifs en minimisant les pertes.
Le chef du Kremlin qui a expliqué que son armée poursuivait calmement le plan établi par son état-major. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Le président russe qui a aussi qualifié le massacre de civils à Boutcha de fake, comparant ses accusations à celles concernant l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad Assad en Syrie. Et puis, en bref, au Royaume-Uni, c'est du jamais vu pour un Premier ministre britannique en exercice. Boris Johnson va avoir une amende, va devoir payer une amende pour des infractions aux règles anti-Covid pendant les confinements. Sanction qui relance le scandale du Partygate pour le dirigeant conservateur. L'opposition travailliste a immédiatement demandé le départ du chef du gouvernement et du ministre des Finances qui est aussi sanctionné, Boris Johnson, qui renouvelle ce soir à la télévision ses excuses les plus complètes.
Une enquête au sein de l'école polytechnique révèle que près d'une étudiante sur quatre dit avoir été victime d'agressions sexuelles.
Il y a eu une prise de conscience depuis l'enquête menée à Centrale Supélec à la rentrée de septembre 2021, telle que Polytechnique a décidé de réaliser sa propre enquête à la demande des associations étudiantes. Bonsoir Laurélie Carive.
Bonsoir.
Et les réponses à ce questionnaire diffusé en interne sont accablantes.
Oui, c'est-à-dire qu'après le scandale Centrale Supélec, l'X a voulu y voir plus clair sur ce qui se passait sur son propre campus. Mis en ligne en janvier-février, le questionnaire a obtenu plus de 2000 réponses qui dressent un tableau glaçant. 23% des étudiantes disent avoir déjà subi une ou plusieurs agressions sexuelles depuis le début de leur scolarité. 11 personnes, dont 10 femmes, déclarent avoir été victimes d'un viol ou d'une tentative de viol. 3 affirment avoir été droguées à leur insu lors d'une soirée. François Bouchet est le directeur général de Polytechnique.
On se doutait qu'on n'allait pas avoir zéro cas qui serait remonté. On ne pensait pas forcément avoir autant de cas. On avait eu des signalements, alors des fois anonymes, disant « voilà, j'ai été agressé, mais je ne peux pas vous dire qui c'est, et puis je ne veux pas qu'il y ait de procédure ». C'est compliqué, on peut qu'encourager les victimes et les témoins aussi à déclarer. Si on n'a pas cette remontée d'informations de façon totalement libérée, on ne pourra pas agir.
Lui a déjà effectué un signalement au procureur de la République de l'Essonne. Alors l'X avait déjà pris des mesures ces dernières années avec la mise en place notamment d'une cellule d'écoute, mais force est de constater que ça ne suffit pas. L'école veut donc aller plus loin avec des actions de prévention, de protection, comme ces safe zones pendant les soirées, des zones à l'écart, au calme, avec des personnes formées et non alcoolisées, où toute personne qui ne serait que mal à l'aise peut trouver refuge.
Et c'est aussi à lire en longueur sur franceinter.fr. Merci Laurélie Carive. Le verdict dans le procès de Nicolas Zepeda, il est condamné à 28 ans de réclusion criminelle, reconnu coupable d'avoir tué son ancienne petite amie, une étudiante japonaise, il y a près de 6 ans à Besançon. En bref, encore 2 recommandations médicales qui évoluent. Une dose de vaccin contre le papillomavirus est suffisante pour les femmes de moins de 21 ans, estime aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. Et contre la coqueluche, les autorités sanitaires françaises recommandent désormais la vaccination pendant la grossesse, à partir du 2e trimestre, pour protéger le bébé. Et puis un total de 154 salmonelloses ont été détectées depuis le rappel des chocolats Kinder. 9 pays européens, dont la France, touchés, aucun décès rapporté. Des investigations supplémentaires seront nécessaires pour identifier la source exacte et le moment précis de la contamination, selon les experts. Et voici une reprise ratée pour Novak Djokovic, éliminé dès son entrée en lice au 2e tour du Masters 1000 de Monte Carlo, que vous suivez pour France Inter. Fabrice Abgral, bonsoir.
Bonsoir.
Éliminé en 3-7 par le jeune Espagnol Davidovic.
Fokina, en effet, c'était un véritable test grandeur nature hein, pour Novak Djokovic qui disputait aujourd'hui tout simplement son 2e tournoi de la saison et son 4e match de l'année. S'il a si peu joué, c'est parce qu'il a été directement confronté aux mesures sanitaires liées à la pandémie. Djokovic n'est pas vacciné contre le Covid et c'est pour cette raison qu'il a été exclu dans un premier temps de l'Open d'Australie en janvier dernier et privé au mois de mars de la tournée américaine. À Monte Carlo, il reprenait donc la compétition après 5 semaines d'absence. Alors certes, il s'est entraîné durant cette période, mais tout ça, ça ne remplace pas les matchs de haut niveau et aujourd'hui le numéro 1 mondial a pu le constater face à cet Espagnol Davidovic Fokina, joueur redoutable sur terre battue. Djokovic est encore loin, très loin de son meilleur niveau physiquement et techniquement. Il manque de rythme et de précision, de repères et de sensations. Il a été souvent pris de vitesse. Le numéro 1 mondial avait du mal à soutenir l'échange, commettant beaucoup de fautes directes. Il a même perdu 9 fois son service, ce qui ne lui était jamais arrivé dans des matchs en 2-7 gagnants. Novak Djokovic va donc devoir se remettre au travail très rapidement avant d'aborder Roland-Garros, dont il est le tenant du titre.
Fabrice Abgral, merci à vous. Et puis il y a un billet à décrocher pour le mondial de foot ce soir, les Bleus. L'équipe féminine affronte la Slovénie ce soir au Mans. Elles n'ont besoin que d'un petit point pour se qualifier pour le mondial qui aura lieu en 2023 l'année prochaine.
Et ben voilà, merci beaucoup Hélène Filly. On se retrouve demain, même heure, même endroit, dans un tout petit instant, le 18-20. La suite, c'est le téléphone sonne avec Thomas Pesquet qui vient de s'installer. Ça, c'est la bonne nouvelle. On regarde aussi à quoi ressemble la météo. C'est une moins bonne nouvelle.
la météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Élodie Calac, un temps donc nuageux au programme de demain.
Oui, avec de la pluie en prime du sud-ouest vers le centre Val de Loire, le bassin parisien, la frontière belge. Alors, ces pluies deviendront plus continues au pied des Pyrénées l'après-midi, mais ailleurs, elles s'espaceront. Sur le nord-ouest, jusqu'à la côte d'Opale, ce sera changeant avec des éclaircies plus belles sur la Bretagne, sur la Normandie. Quelques brouillards quand même le matin et puis une petite averse possible dans l'après-midi. Plus à l'est, on aura un soleil voilé, alors un voile parfois dense entre le massif central et le Languedoc. Ce sera plus lumineux à l'est du Rhône et en Corse. Et puis sur les côtes varoises, sur la Corse, là, le vent soufflera encore demain jusqu'à 60 à 70 km à l'heure.
Et il fera doux?
Oui, 6 à 13 degrés le matin et puis l'après-midi, alors seulement 15 degrés à Perpignan sous la pluie, 16 à Cherbourg, à Biarritz, mais 18 degrés à Lille, à Paris, à Tours, 19 à Bordeaux, 22 à Metz, Dijon et Nîmes, 23 du côté de Lyon et 24 degrés à Strasbourg.
Et Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup Élodie.